Slime, saison 3, émission 3, rideau.
Le 14 février, la fête des amoureux où les tourtereaux tourteronnent, les hirondelles hirondent et un autre type d'oiseau fait son cri. L'amour, c'est quelque chose d'omniprésent dans la fiction et évidemment c'est aussi présent dans la comédie musicale. C'est d'ailleurs un des clichés de cet art, qu'on chante, qu'on danse, qu'on tombe amoureux, qu'on s'embrasse puis rideau. Alors évidemment la comédie musicale c'est bien plus que ça et si vous écoutez Slime, vous êtes déjà au courant. Mais cependant on ne peut pas dire que ce cliché soit non plus infondé quand on voit le nombre faramineux d'histoires d'amour qui ont été racontées sur scène avec des twists ou même sans. Ce mois-ci, nous allons vous parler de l'amour et de ses représentations dans la comédie musicale, dans cette nouvelle émission de Slime.
Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Slime, l'émission qui vous aime. Oui, vous qui nous écoutez ce soir, Slime vous aime. Je suis Gauthier et je suis confortablement assis dans un des box royaux avec dans le box d'en face de moi, de l'autre côté de la scène, Ange.
Salut Ange, ça va ?
Ça va Gauthier, et toi ?
Ça va très bien, merci.
Super !
Dans le box en dessous de moi, Élise.
Salut, ça va ?
Ça va toi Gauthier ?
Bah très très bien, toujours hein. Et dans celui qui est à ma droite, on a Ilona. Salut Ilona !
Salut Gauthier !
Merci à vous trois d'être là. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et qui va peut-être passer une bague dans un doigt pendant l'heure. C'est parti ! Et donc pour commencer, je vais donner la parole à Ange. Oh. Ange, c'est à toi !
Merci bien Gauthier. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de... d'art. Le romantisme, l'expression des sentiments, le lyrisme. Quand je pense à l'amour avec un grand A, c'est directement ce qui me vient à l'esprit. Oui, j'ai fait L. L'amour c'est grand, l'amour c'est beau, l'amour c'est tragique et ça fait pleurer. Prenons tout cela depuis le début. Bienvenue dans ma dissertation sur l'amour, le grand amour, l'amour grandiose et dramatique. Et promis, on parlera peut-être un petit peu de comédie musicale. Je vous dirais bien que, de tout temps, l'amour a toujours fasciné les hommes. Car bien que ce soit probablement la phrase d'accroche la plus clichée de tous les temps, c'est factuellement le cas. Tenez, si je vous demande de me citer la première pièce de théâtre qui vous viendrait en tête, Élise, Ilona, Gauthier ?
Roméo et Juliette.
Oh, parfaitement, Roméo et Juliette. Ah, un amour torturé, interdit, notamment par le fait que Juliette est censée avoir 13 ans. Oui, c'est un détail que l'on a tendance à omettre. Mais oh là là, c'est tellement fascinant. Des amants maudits qui préféreraient se retrouver ensemble dans la mort que d'être séparés. C'est beau, c'est beau, c'est si beau que ça a donné une comédie musicale qui s'appelle Anne Juliette. I want it that way. Et vous pensiez que j'allais mentionner Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, amateur. Mais franchement, j'ai beau adorer les Backstreet Boys. I want it that way. Tell me why. J'ai grave la flemme de vous parler de ce spectacle. Parlons plutôt d'art. Vous connaissez le romantisme ? À main levée, c'était très radiophonique tout ça. Qui connaît le romantisme ici ?
Oui.
Oh,
oui.
Tout le monde. Ok, maintenant, qui peut me citer une artiste romantique ?
Victor Hugo ? Non ?
Bon, on aurait essayé.
Pour les auditeurs, il y a énormément de grimaces qui est sortie de son visage.
On aurait essayé. Pour contextualiser, là, on parle d'un mouvement artistique et littéraire du XVIIIe siècle, originaire de la France ! Prenons l'origine de son nom, déjà. L'adjectif romantique est dérivé du mot roman, donc en soi, rien à voir avec l'amour. Rien du tout ? Pas sûr. Parce que si aujourd'hui, le mot romantique est connoté de « Waouh, quelle belle histoire d'amour !» Ce n'est pas pour rien. Le principe de ce mouvement est l'expression des sentiments, de la fragilité humaine, le reflet des passions humaines sur la nature elle-même. Mais l'amour est tout de même au cœur du sujet. On y parle d'amour déchaîné, violente, grandiose, céleste, transcendantale, des amours qui subjuguent aussi bien qu'elle ne tue. On aime trouver de la beauté au sein de l'effroi, de la tragédie. On souffre d'être trop heureux et on s'extasie d'avoir mal. Oui, le romantisme, c'est être émo-tumbler avant les années 2000. Mais c'est surtout un mouvement capital qui laisse une marque indélébile sur les œuvres qui suivent. Parce que, vous souvenez-vous un petit peu des carcans de la comédie musicale ? Tiens, Élise, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu le principe de, je sais pas, une I Want Song ?
Une I want song ?
Ouais, une I want song.
C'est une chanson où le personnage principal dit ce qu'il veut faire et ce qu'il veut devenir. C'est au début de la pièce en général. Voilà.
Exactement. Et ça, messieurs, dames, c'est littéralement ce que l'on nomme l'expression des sentiments. Un personnage qui chante ses désirs à la terre entière. C'est beau, c'est splendide. Et tout le monde qui se met à danser derrière dans un numéro gigantesque. Excusez-moi, mais personnellement, j'appelle ça du romantisme avec un grand R. Et qui dit romantisme avec un grand R dit par extension amour grandiose. Chantez l'amour, que diable. Chantez la rencontre, chantez son premier baiser, chantez... l'acte sexuel aussi. Prenons un air que tout le monde connaît. Tiens, ça. On est au milieu de Heathers. Véronica, la protagoniste, décide que foutu pour foutu, quitte à se faire lyncher au lycée suite à des péripéties désastreuses, elle va vivre la vie avec un grand V. J'ai dit beaucoup de fois cette expression depuis le début de ma chronique. Et va donc aller pratiquer le coït avec son mystérieux voisin qu'elle a croisé deux fois à tout péter. Et messieurs, dames, elle le chante tout ça. Elle chante tout son processus de pensée. Et ce jusqu'à l'orgasme. Franchement, je ne pensais pas un jour prononcer le mot orgasme sur Slime. Mais bon, on est là. Et mes amis, quel romantisme! Son état est tellement déchaîné, ses passions si dévorantes que les mots ne suffisent plus. Et l'art prend le dessus. Et ce n'est pas le seul exemple. Est-ce que vous avez déjà vu la série Crazy Ex-Girlfriend ?
Non.
Je ne l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler.
Eh bah, bien, franchement, moi, je vous la recommande. Pour vous la faire courte, donc Rebecca, protagoniste, est une avocate qui travaille à New York. Elle a tout pour elle, la réussite, l'argent, patati, patata. Et puis, un beau jour, elle rencontre un ex-petit ami qu'elle avait rencontré en colonie de vacances. Et elle décide d'abandonner sa vie et de déménager dans la petite bourgade de West Covina pour le suivre. Si le pitch n'a pas l'air de grand-chose, sachez qu'il s'agit d'une série déjà excellente, mais surtout, c'est une série comédie musicale.
Et
tout est prétexte à chanter, car Rebecca est un personnage dramatique qui vit ses émotions et surtout l'amour qui la torture en très grand. Vous voyez plutôt. Chanter à plein poumon parce qu'on a fait de la merde avec son crush. Oh là là, comme je suis fan. La quintessence du romantisme à mes yeux. En fait, le truc en comédie musicale, c'est que tout est grand, tout est pailleté. Et l'amour au milieu de tout ça, c'est la plus grande des passions. Celle qui prend le plus de place, celle qui est la plus virulente et la plus intense. Prenons les classiques. J'ai fait un sondage tout à l'heure au travail. Le fantôme de l'opéra, le roi lion, la lande, pour citer les plus connus parmi les néophytes. L'amour est une clause presque contractuelle. Comme si finalement tout ne tournait presque qu'autour de ça. Un amour grandiose, parfois douloureux, mais qui s'élève malgré tout au-dessus de tout. Moi, c'est ce que j'appelle le vrai romantisme. Et je trouve ça beau, personnellement.
Merci Ange pour ta chronique pleine d'amour, pleine d'aventure. Non, pas d'aventure, mais de romance et de romantisme.
Exactement.
Est-ce que vous, c'est... Voilà, Alice, allait dire quelque chose.
C'est vrai que je trouve ça... J'ai pensé en faisant ma chronique, mais j'ai pas pu l'écrire dedans, mais je trouve ça hyper pertinent. C'est vrai que le romantisme, dans le sens l'expression des sentiments, c'est tellement interne à la comédie musicale. Et quand on voit que les gros classiques de la comédie musicale, ça va être genre Les Misérables. Ouais. Genre I Dream the Dream, qui est vraiment la chanson où elle est là en mode « Oh, ma vie, l'amour a tout ruiné, mais j'aime tellement l'amour oh !» C'est vrai que c'est un truc très actuel dans la comédie musicale, alors que c'est un mouvement un peu daté.
Ouais.
En littérature, quoi.
Bah, je sais pas si je vais citer des petites références parce que j'adore parler d'art. vous voyez ce tableau, je crois que ça s'appelle, je suis plus sûre du titre totalement, Le Voyageur dans les nuages de Caspar Friedrich.
Ouais.
C'est, vous voyez un mec qui surplombe une mer de nuages, devant lui c'est un petit peu mélancolique. Ça, c'est un tableau qui représente énormément, en fait, le mouvement du romantisme. À l'époque donnée, bien sûr. Parce que dans le romantisme, il y a ce truc de, soi-disant, dans les œuvres picturales, la nature reflète les sentiments du protagoniste. La nature transmet des émotions. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, la comédie musicale. On a des protagonistes, des personnages qui chantent, et derrière, il se passe des choses, il y a des tableaux qui se construisent. On assiste vraiment à la cristallisation de toute l'émotion ressenti par une seule personne. Et je trouve qu'effectivement, c'est cool de faire aussi ce parallèle-là.
Et surtout que ce que tu dis, c'est que si le romantisme, c'est vraiment l'expression de ses sentiments, c'est vraiment littéralement le principe de la comédie musicale. C'est de dire, on ne peut pas le parler, on le chante. Et,
ouais.
Et
ouais.
Ça va clairement dans ce sens-là. Donc c'est très intéressant comme parallèle.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ce moment où les mots ne suffisent plus et il faut que l'art accompagne le reste.
Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens trouvent ça un peu too much, la comédie musicale. Et comme beaucoup de gens trouvent ça un peu too much maintenant, l'art romantique où on voit les poèmes et ce genre de choses. Donc je pense que c'est encore d'actualité comme quoi le romantisme, en tout cas chez nous, amateurs de comédie musicale.
Franchement, oui. Hein.
Bah écoutez, merci Ilona, t'as un truc à rajouter peut-être ?
J'adore les I Want Songs. Moi, je trouve ça super.
Mais oui, mais du coup, le I Want Song, qui est vraiment comme Elise, t'as déjà fait une chronique dessus, mais qui est vraiment un passage obligé dans chaque comédie musicale. Donc, on est fatalement obligé de passer par là
pour
avancer finalement dans l'histoire, quoi, parce qu'on ne va pas s'identifier à un personnage si on ne sait pas vraiment ce qu'il veut en réalité.
Et je trouve que c'est souvent un moment qui est très soigné dans les comédies musicales, dans le sens où il y a toujours le gros ensemble. T'es porté par la chanson, peut-être plus par celle-là que par d'autres. Je sais pas si j'aurai un exemple là comme ça qui me vient.
Les Disney peut-être, tout
oui,
simplement.
Bah, Réponse, par exemple.
Ouais. Les chansons dont tu te souviens, c'est souvent les I Want Songs. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'on se souvient de la pièce ou de l'œuvre en question sous le prisme de, du coup, cette recherche de l'amour. Et voilà, je trouve que c'est intéressant.
Mais surtout qu'en général, vu que ça arrive au début, c'est vraiment le moment où dans l'histoire, en fait, tout est à faire, rien n'est encore arrivé. On a plein d'espérances, plein de rêves, donc forcément qu'on s'identifie plus à ça, parce que je pense que tout le monde est un petit peu quand même dans une volonté de réaliser ses rêves ou quoi, et donc s'identifie ça parce que peut-être qu'elle va y arriver, peut-être que pas, mais c'est quand même excitant d'y penser.
Plot twist, ouais. Souvent ils y arrivent.
Sauf dans cette œuvre que je vais. Bah écoutez, merci beaucoup Ange pour tout ce dégueulis d'amour, mais c'est un peu connoté.
Oh, wow. Tu penses que j'ai gerbé sur l'émission, Gauthier ?
Je pense que, oh là, comme tu y vas.
C'est de la gerbe positive.
C'était et poétique, bah... en tout cas, Gauthier, merci pour cette métaphore.
C'est cette grande, on est inondé par l'amour.
C'est avec plaisir.
C'est un peu mieux là, c'est un peu mieux.
Ah, oui,
une
oui.
Grande vague de roses qui nous saute dessus.
J'adore.
Merci beaucoup, Ange.
Slime. Un vendredi par mois à 19h. Sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, ça va être au tour d'Élise. Élise, je te laisse le micro.
Merci. Si vous avez écouté ce qu'on disait il y a à peu près 1 minute 30, vous avez compris, l'amour et le romantisme sont des thèmes omniprésents dans l'art. Et vous l'avez aussi compris avec le thème du jour et, encore une fois, le discours avant il y a 1 minute 30, ça n'échappe pas à la comédie musicale. Personnellement, j'aime bien placer sur un pied d'égalité l'amour platonique et l'amour romantique, parce que je les trouve aussi forts l'un que l'autre. Alors en plus, si on s'aligne sur ce point de vue, c'est un thème qui devient carrément inévitable, car on écrit rarement des histoires intéressantes qui parlent d'un mec tout seul, sans pote, qui fait une quête sans parler à personne. Voilà. Mais moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est les thèmes implicites que l'amour amène avec lui dans chaque récit, comme la notion de confiance, la loyauté et aussi... la trahison, musique dramatique. Je me revois à 11 ans devant La Reine des Neiges. Et oui, j'avais 11 ans quand La Reine des Neiges est sortie, laissez-moi tranquille. J'avais adoré le duo de Anna et Hans et j'étais absolument deg de me rendre compte que le mec qui avait chanté « L'amour est un cadeau » était en fait un immense enfoiré. Bon, avec du recul, c'était surtout parce que j'aimais beaucoup la chanson et pas parce que je me suis sentie trahie par empathie pour le personnage. Mais mine de rien, c'est resté marquant pour moi. L'empathie, c'est un sentiment surpuissant. Et c'est pour ça que les trahisons nous marquent dans les œuvres, qu'on les voit venir ou non. Sweeney Todd, ça vous dit peut-être quelque chose, non ? Si vous connaissez la pièce, vous voyez peut-être pas où je veux en venir. Mais si vous connaissez pas, bon, il y a quand même eu toute une émission sur Sondheim le mois dernier, mais je juge pas, c'est ok. C'est ok, y a pas de problème. Pour vous mettre dans le contexte, c'est une œuvre qui parle d'un barbier motivé par la haine, qui tue des gens dans son salon, et de sa collaboratrice, Miss Lovett, qui réceptionne les corps pour en faire des tourtes à la viande humaine dans son restaurant. Disclaimer, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, mais voilà. Je voulais vous poser une petite question. Quelle chanson vous vient en tête, vous, mes amis de Slime, en pensant à cette œuvre ?
Sweeney Todd, l'ouverture de la pièce.
No Place Like London.
Ok.
The Worst Spies in London.
Ok. Et moi, sachez que c'est Not While I'm Around. Chanté par Tobias à Miss Lovett, un jeune garçon dévoué qui chante Nothing's gonna harm you.
Not while I'm around.
It's gonna harm you. Il chante ça à une dame qui fait des tourtes à la viande humaine. Nul ne pourra vous faire du mal tant que je serai là. Il n'a pas compris qu'il était en danger. En tout cas, cette chanson, c'est un serment de loyauté et d'affection. Et nous, spectateurs, on sait d'avance que ça ne peut pas bien se finir. Et ça nous fait du mal pour lui. Et c'est là que la musique prend son sens dans l'œuvre. Le personnage de Tobias contraste avec les horreurs de la pièce. Il est en décalage et c'est touchant. Une musique douce dans un spectacle qui sonne comme ça. Ça dénote un poil, légèrement. Symbole d'une innocence trahie et d'une loyauté placée au mauvais endroit. Mais si la loyauté n'était pas innocente? Si on aimait en sachant le mal qu'on a en face de nous? Je crois que j'y reviendrai toujours malgré moi, parce que c'est la comédie musicale qui m'a amenée dans le terrier de lapin. C'est Heathers. Alors si vous connaissez pas, très rapidement, c'est Véronica, une meuf nulle, qui rejoint les populaires du lycée, elle tombe amoureuse de JD, le mec sombre et mystérieux, sauf qu'en fait, JD, il est complètement traumatisé et absolument pas sain d'esprit, et il va tuer des gens de leur entourage qu'il trouve mauvais, et emmener Véronica dans ses combines. Alors jusqu'où va la loyauté? Jusqu'où est-ce qu'on peut fermer les yeux? Et quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on peut trahir quelqu'un qu'on aime? Il y a 3 meurtres à déplorer dans l'histoire. Alors quand Véronica dit qu'elle en a fini avec tout ça et qu'elle quitte JD, et que JD pointe son arme à feu sur elle et lui dit « Mais moi, je t'aime !» Est-ce qu'il ment? Non. Est-ce qu'il l'a trahi? Probablement oui. Heathers a ses défauts, mais je trouve que la mise en opposition de l'amour et de la trahison, c'est très bien fait. Et bien qu'ici, les curseurs soient poussés au maximum, puisqu'on parle quand même d'assassinat, l'œuvre est très parlante. On a tous déjà dans notre vie laissé passer des choses, pardonné des choses impensables, par amour. Et c'est facile de se retrouver dans le personnage de Véronica, le syndrome du sauveur, prête à mentir, prête à pardonner pour protéger ce qu'elle chérit. La comédie musicale n'a rien inventé dans cette dernière, puisque c'est issu d'un film. Je trouve que la musique cependant rajoute une dernière couche, comme si on explicitait encore un peu plus les sentiments et leur évolution. Par exemple, dans l'acte 1, juste après un meurtre commis en face de Véronica sans qu'elle ne s'y attende, JD répète « Our love is God, notre amour est Dieu », jusqu'à ce que Véronica le répète, comme pour sceller son emprise sur elle et son implication dans les atrocités commises. Mais à la fin de la pièce, lorsqu'elle se détache de lui et qu'elle décide de l'empêcher de faire sauter le lycée, alors, presque dans une dernière tentative, il recommence « Our love is God ». Our love is God. Mais cette fois, elle répondra « Say hi to God ». Dis bonjour à Dieu. Elle en a fini avec ce plouc et c'est dans ces moments-là que je trouve que la musique réussit vraiment à sublimer un propos avec des mélodies impactantes. Elle ne peut pas le sauver, surtout pas lui. Peu importe à quel point elle l'aime. Bon, et après, JD se fait sauter avec une bombe et en réalité, comme beaucoup de situations, même dans la vraie vie, je pense que ça se serait mieux passé si les hommes allaient plus chez le psy. En tout cas, la trahison, ça fonctionne particulièrement bien en comédie musicale, parce que la musique, ça raconte beaucoup, et c'est très puissant pour véhiculer des émotions fortes. Il suffit d'un petit twist dans une mélodie qu'on a déjà entendue, ou d'une reprise avec des paroles qui changent un peu pour être impactant. J'ai vraiment une grosse passion pour les leitmotifs, les motifs musicaux qui se répètent et qui ont une signification, surtout quand ils finissent par se corrompre un peu, quand l'œuvre s'assombrit. Ouh, j'adore. Mais si on trahissait l'amour par amour? Quasiment tout le monde connaît le mythe d'Orphée et d'Eurydice, le musicien prêt à descendre jusqu'aux enfers pour récupérer celle qu'il aime et qui est autorisé à la ramener à la surface à l'unique condition de ne jamais se retourner et qui échoue au dernier moment. Hadestown est une comédie musicale qui a réussi la prouesse de prendre un mythe court, très connu et presque un petit peu bateau et d'en faire une pièce complète très pertinente. Je suis allée voir Hadestown à Londres avec mon cher Gauthier et je vous jure que le moment où Orphée craque et se retourne et que le sol s'ouvre sous Eurydice, j'ai eu l'impression d'être à sa place, et que c'était moi qui retournais aux enfers. Je connais le mythe, je savais comment ça allait se finir, mais mon cœur s'est arrêté à ce moment-là. Et c'est vraiment là où je voulais en venir. C'est qu'avec un peu de génie musical et un vrai talent d'écriture, on peut prendre des émotions et des concepts extrêmement primaires comme l'amour, la trahison et la loyauté, pour en faire quelque chose de marquant. La comédie musicale s'y prête extrêmement bien. Et oui, moi aussi j'ai déjà roulé des yeux devant des histoires d'amour bateau et un peu poussives avec des dénouements évidents. Mais parfois, Wait For Me passe dans ma playlist et je me surprends à voir la gorge qui se noue un petit peu dans le RER.
Merci Élise pour ta chronique qui rend nostalgique, mine de rien, de même qui donne envie de revoir, de réécouter Hadestown, toujours.
Très important.
Et même de réécouter Heathers, alors que Dieu sait qu'on l'a beaucoup écouté.
C'est toujours bien Heathers, enfin,
c'est toujours bien.
À mon goût, c'est toujours très bien.
Simple et efficace.
Mais d'ailleurs aussi dans les pièces de, alors de ce genre-là, entre gros guillemets, pas musicalement, mais dans la même, comment dire, on les met beaucoup dans le même panier parce que c'est des chouchous d'internet. Il y a Dear Evan Hansen aussi, qui est une histoire un peu de trahison, d'amour, de mensonge, qui est revenue à Paris. Je sais pas s'il y en a qui sont allés le voir.
Si.
Ah, t'as bien aimé?
J'ai adoré, moi. Je trouve ça super.
Ok, bah trop chouette. C'est vraiment une histoire. Bah, j'ai pas pu aller le voir. Mais je trouve que c'est, pareil, une histoire qui est hyper sympa, même si les musiques sont beaucoup plus pop, donc il y a moins ce truc de leitmotiv, de choses qui reviennent. Et c'est ça qui est un peu dommage, mais c'est le même...
Il y a justement, dans Dear Evan Hansen, il y a ce truc-là de c'est l'amour, mais directement, en fait, c'est pas comme dans Heathers, comme tu racontais, où, en fait, au bout d'un moment, JD va trahir Véronica. C'est vraiment, il y a une trahison dès le début dans l'histoire d'amour. Pour expliquer, Dear Evan Hansen, c'est une histoire où... Un lycéen qui s'appelle Evan est amoureux d'une fille de son lycée et en fait va faire croire qu'il était ami avec son frère qui s'est suicidé pour se rapprocher d'elle et en fait créer une relation amoureuse. Et mais du coup
il a pas fait exprès, au début c'était pas prévu,
au début il a pas fait exprès,
ça lui a un peu tombé dessus,
mais en fait il va pas oser dire la vérité et il va s'embourber dans son mensonge de plus en plus. Et en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'il y a une trahison dès le départ en fait, contrairement à d'autres choses où la trahison peut arriver plus tard. Ange,
je vais donner la parole.
Termine ce que tu veux dire, t'inquiète pas.
J'ai terminé.
Moi, j'aurais bien aimé revenir sur un point qui me semblait intéressant. Comment dire ? C'était notamment par rapport à Edith Starn, mais je pense que ça peut s'appliquer pour plein de situations différentes. Mais quand effectivement, spoiler, Orphée s'est retourné.
Non,
non, pour de vrai.
Sûr, oh le con.
Vous êtes pas senti vous trahi?
Ah si. C'est terrible comme scène.
Il y a ce truc de. Alors certes, Orphée a promis à Eurydice de ne pas se retourner. Il le dit pas dans la pièce, mais bon, ils se font une promesse. Voilà, et on s'entend. Mais il passe aussi une espèce de contrat avec le public. Le public s'attend à voir quelque chose. Il s'attend, comment dire, on est censé connaître le mythe. Mais là, à ce moment-là, si on est tous des gens honnêtes, on se dit « Ah bah, Orphée a promis de pas se retourner. Bah, il va pas se retourner. » Et comment ça se fait qu'on se sente tous trahis alors que on est en train de regarder une pièce de théâtre?
En plus, la mise en scène sur Edith Starn, le spectacle, c'est vraiment... tellement dramatique, en fait, il est un petit peu en hauteur, lui, il se retourne, et en fait, le plateau s'écroule sous Eurydice, elle tombe, elle disparaît de la scène, dans un trou géant, c'est un truc de
et
fou.
En plus, c'est hyper immersif, parce que au moment où il se retourne, les lumières se rallument. Les lumières se rallument, et d'un coup, t'es, comme t'as commencé le spectacle, dans la salle, tu vois les musiciens qui sont là, bon, bah, c'est la fin du spectacle. Quoi ? Comment ça ? Vraiment ?
D'où le nombre de larmes versées par tout le public.
Mais je crois que c'est un record dans l'histoire de Broadway. Ils n'ont jamais vu des sièges aussi mouillés en sortie, genre en cumulé.
Alors que c'est fou quand même, parce qu'on se rend compte que l'écriture et la mise en scène, ça fait énormément. Parce qu'ils font pleurer avec une histoire où tout le monde connaît la fin. Tu connais le mythe.
Surtout
tu sais qu'ils
le rappellent au départ. Ils le disent, bon, bah, ça va pas bien se terminer. On vous dit, ça va pas bien se terminer. Mais peut-être, on ne sait pas.
Mais je pense aussi, il y a le truc de quand tu vas voir une comédie musicale, parfois tu t'attends à voir un truc un petit peu enjolivé, avec une fin un peu modifiée. Et là, le fait de se dire que non, la fin, elle n'est pas modifiée, t'es juste confrontée à l'histoire et à la réalité de l'histoire et au fond, ce que tu connais, c'est affreux, je trouve, quand la réalité du truc te rentre dans la tête comme un camion. J'ai pas d'autre métaphore.
Le camion, elle dit ça, non.
En fait,
le camion.
Ça finit mal parce qu'en fait, on est habitué à ce que ça finisse bien.
Ouais.
Et du coup, en fait, on se dit, bon, bah, c'est bien, du coup, là, ça va bien se finir. Non !
J'adore quand ça se finit mal.
Bah c'est toujours un peu plus intéressant en réalité, les histoires qui se terminent mal. Je pense que ça marque plus en réalité, parce qu'on ne s'attend pas forcément à la fin.
Ouais. Oui, c'est bien clair. Sûr.
Puis la force de Edith Starn, c'est que je trouve que les comédiens sont très appliqués dans cette histoire de... On re-raconte l'histoire à chaque fois et on sait comment ça va se finir. Et je trouve qu'il y a un peu cette ambiance en fait, autour de la pièce déjà, qui fait qu'en en tant que comédien, quand tu la joues, elle a ce climat qui plane au-dessus et que ça fait que ça se transmet encore mieux au public. Après, je trouve que c'est vraiment fort pour ça, Edith Starn. Ouais.
Mais il y a ce truc aussi un peu méta dans Edith Starn. Ce que je vois, c'est que c'est des comédiens qui racontent une histoire, en fait. On voit des comédiens qui jouent des comédiens, en fait. Donc, en fait, il y a deux couches. Et en fait, eux savent que ça va mal se terminer. Et on le voit dans le numéro de fin où tout le monde se remet un peu à sa place. Et on se dit, ah bah d'accord, bon, ils vont rejouer la pièce encore une fois, quoi. Mais voilà, ça joue là. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire?
Regardez Eddie Stern, c'est excellent. Regardez Eddie Stern.
Écoutez surtout en vrai.
Écoutez pour
allez
le
voir
moment.
Écoutez
le concept album de Eddie Stern.
Avec super. Chant 2 qui est meilleur que la celle actuelle.
C'est exceptionnel.
Là, nous allons écouter une chanson de Eddie Stern. Justement, nous allons écouter le moment où justement on prend espoir à la toute fin, quand justement ce contrat a été scellé et on se dit peut-être qu'il va y arriver. Il va y arriver et franchement, ça. Au regard de ce numéro, on se dit que la fin est quand même encore plus catastrophique, dans un bon sens, bon sens du terme. On va écouter Wait For Me, la reprise. The meanest dog you'll ever meet, he ain't the hound dog in the street. He bears some teeth and tears some skin, but brother, that's the worst of him. The dog you really gotta dread is the one that howls inside your head. It's him whose howling drives men mad and a mind to its undoing. Wait for me, I'm coming. Wait, I'm coming with you. Wait for me, I'm coming too. I'm coming. Show the way so we can see. Show the way the world could be. If you can do it, so can she. If she can do it, so can we. Show the way. Show the way the world could be. Show the way so we believe. We will follow where you lead. We will follow with you. Show the way.
Think they'll make it?
I don't know.
Show the way. Hades, you let them go.
Show the way. I let them try.
And how about you and I?
Show the way.
Are we gonna try again?
Show the way. It's time for spring. We'll try again next fall.
Wait for me.
I will.
Wait for me. I'm coming. Wait, I'm coming with you. Wait for me. I'm coming too.
Lonesome road to walk, and it ain't along the railroad track, and it ain't along the blacktop tar you walked 100 times before. I'll tell you where the real road lies, between your ears, behind your eyes. That is the path to paradise, likewise the road to ruin.
Wait for me,
I'm coming.
C'était Wait For Me reprise, issue de Hadestown.
Slime, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Alors moi j'ai envie de vous parler d'amour. Alors oui, on en parle depuis le début de l'émission de l'amour. On papillonne, on est heureux, on s'embrasse et tout. C'est bon, non? Il y en a pas marre, là? De l'amour par-ci, de l'amour par-là. Je me retourne. Oh putain, encore de l'amour. On n'est jamais tranquille avec l'amour. Dans la fiction, en général, c'est la base de la majorité des histoires dans les films, dans les séries et bien sûr dans la comédie musicale. On tombe amoureux, on chante, on s'embrasse. Très conte de fées, finalement. Il y a des couples cultes dans la comédie musicale comme Seymour et Audrey, Alexander et Eliza, Troy et Gabriella ou encore Élise et Andrew Lloyd Webber. Eh bien oui, j'ose le dire, j'adore les comédies musicales, mais moi, l'amour, je sature. Parce qu'il est partout. Et même des fois, il nous prend par surprise à la toute fin, alors que ça n'était pas du tout justifié. Plusieurs exemples dans la comédie musicale Clueless, adaptée du film éponyme. Pendant toute l'histoire, on suit Cher, une lycéenne qui vit avec son père et son demi-frère. Ils s'entendent bien, ils sont potes, il leur arrive des aventures et tout. Et à la fin, ah bah en fait, je suis amoureuse de mon demi-frère, on va s'embrasser et finir ensemble. Ils finirent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ce qui, au-delà de l'agacement de voir une relation amoureuse tomber de nulle part entre les deux, est questionnable de par l'aspect familial. Pour vous dire, j'étais tellement choqué à la fin que j'ai dû vérifier sur internet que j'avais bien compris que c'était son demi-frère. Et oui. Autre exemple, Two Strangers Carry a Cake Across New York, ou alors deux étrangers qui portent un gâteau à travers New York. On suit Dougal, un Britannique qui va se retrouver à New York, invité pour le mariage de son père, et qui va y rencontrer Robin, une New-Yorkaise qui se trouve être la sœur de la mariée. Donc pendant toute l'histoire, ils se baladent dans New York, ils deviennent potes, il leur arrive des aventures et tout, et à la fin, ils s'embrassent. Et j'ai été énervé parce que ça n'avait aucun lien juste avant. Au-delà de militer contre l'omniprésence de l'amour dans la fiction, j'ai aussi quand même envie de voir plus de relations platoniques. Pas d'amour, pas d'ambiguïté, pas de « Ah, en fait, au dernier moment, je réalise que je t'aime plus que ça et je t'embrasse ». Parce que je crois que ce que je reproche à tout ça, c'est pas forcément l'amour. Je pense que ce que je reproche, c'est qu'on n'a jamais, jamais, jamais le droit à une relation entre un homme et une femme qui reste amicale jusqu'au bout. À la fin, ils sont toujours obligés de se pécho. Et c'est ça, de ça que je sature. Loin de moi l'idée d'être hétérophobe. Mais je pense que l'hétérosexualité, ça y est, on en a eu assez, non ? Parce qu'en réalité, tout ça traduit quelque chose d'assez problématique, je trouve, parce que le but de la vie, ça dit que le but de la vie, c'est d'être amoureux, d'être en couple, par extension de fonder une famille, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui est un système promu par le patriarcat, la norme la plus normée des normes, qui nous fait croire qu'en sortir est impossible, voire ou alors très difficile, mais surtout qui punit celles et ceux qui voudraient s'en émanciper via une marginalisation plus ou moins forte, mais une marginalisation quand même. T'es pas en couple ? C'est bizarre. T'es en couple avec une femme alors que tu aimes toi-même une femme ? C'est bizarre. Tu veux pas d'enfant ? C'est bizarre. Ce que je veux dire avec ça, c'est pas que je pleurniche à chaque fois que je vois un couple hétérosexuel s'embrasser. Ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être temps, en tant que société, et ça, ça passe grandement par la fiction, de songer à d'autres représentations du couple, d'autres représentations de la famille, de la parentalité, de l'amitié même, que les mêmes représentations classiques majoritaires qu'on se traîne depuis des centaines, voire des milliers d'années. Aujourd'hui, et d'autant plus dans une période effrayante où les droits des personnes homosexuelles, transgenres et de toutes les personnes qui sont envoyées dans cette marge de par leur identité, se fait de plus en plus attaquer par des organismes officiels, la culture doit tenir bon et oser raconter ces histoires, parce que sinon, bientôt, il n'y aura plus personne pour les raconter, ni pour les entendre.
Bien, j'ai envie d'applaudir. Franchement, j'ai envie d'applaudir.
Quel est votre take sur cette omniprésence de l'amour dans les fictions, dans les comédies musicales ?
N'ayons pas peur d'être hétérophobe un petit peu, voilà.
Oui, voilà.
Je comprends pas ce que vous voulez dire. Moi, j'adore les relations hétérosexuelles. Je trouve qu'il y en a pas assez autour de nous.
Allez, c'est la fin de Ange dans Slime. Merci, on cherche un remplaçant.
J'ai fait des chroniques sur le lesbianisme. Calmez-vous, ok.
Bien sûr, mais toi, tu as le droit. Tu as le droit d'être hétérophobe, no.
Il y a le elle passe.
Mais non, mais en fait, voilà, moi, c'est je caricature un petit peu en écrivant ça dans ma chronique, mais c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, un truc frustrant de ben, vous pouvez pas juste être potes, genre, vous inquiétez pas, ça peut bien se passer si vous restez amis, ouais. Genre.
On était allé voir avec Ange, on en avait parlé d'ailleurs quand on était allé le voir, on était allé voir Hello Dolly.
Oui, bien sûr.
Bon, déjà, Hello Dolly, il y a plein de problèmes. C'est un vieux spectacle et ça raconte des choses en mode ouais, ma femme, elle va laver le lavabo, génial.
Il y a une chanson là-dessus. Hein.
Oui, ouais. Toute une chanson. Mais moi, ce qui m'avait choqué, c'est que je connaissais pas du tout le truc, j'avais pas vu le film ou quoi. C'est que Dolly, elle s'occupe d'essayer de mettre en couple un vieil homme qui est chiant. Mais il est chiant et personne ne l'aime. Et en fait, à la fin, résolution, c'est mais en fait, j'aime ce mec, on va se mettre ensemble. Alors que Dolly, elle était dépeinte comme la femme qui avait besoin de personne, et d'un coup, bah en fait, non, ce mec chiant dont personne veut et qui est nul, et bah, ah bah je
c'est
le veux.
C'est de lui dont elle a besoin.
Voilà, pour se sentir mieux, parce qu'au final, c'était juste une grosse carapace qui avait besoin d'être brisée.
Pourrais-je même dire, pour se sentir femme.
Bien sûr.
Et c'était nul, quoi, parce que Hello Dolly, c'était impressionnant visuellement, mais c'est vrai que dans le fond, ça m'avait un peu. Rompiche,
pardon, pardon le Lido 2, continuez à nous inviter.
Merci
s'il
de
vous
nous
plaît.
Avoir. C'était très super. Beau. Vous avez fait du beau travail, vous. C'est comment dire, ancestral le problème, je dirais.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est assez embêtant. Cette omniprésence de personnages féminins et personnages masculins doivent être amoureux, ou s'ils sont pas amoureux, ils sont frères et sœurs. Voilà, c'est tout.
Et ils peuvent même pas être amoureux à la fin.
Catastrophique.
Bah écoutez, moi j'ai tout dit. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire là-dessus?
On peut envoyer la suite.
Envoyons la suite.
Slime, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Et la suite, c'est Ilona qui va un peu continuer sur ce que je commençais à dire, si je ne me trompe pas.
Absolument, tu ne te trompes pas, mon petit Gauthier, mon petit papillon Papillon doré. Je ne sais pas. Alors, moi, je vais parler de l'amour queer à Broadway. Et pour ouvrir cette chronique, permettez-moi de commencer par une très grande citation issue de la comédie musicale Spamalot. Aussi connue sous le nom de Bible à référence de Ilona Verag. Moi. Ils y disent « You won't succeed on Broadway if you don't have any gays. » Eh oui, car il est difficile de parler de théâtre musical sans mentionner la communauté queer qui est étroitement liée, autant dans son histoire et dans l'héritage qu'il porte que dans les thèmes qui sont abordés dans les différentes comédies musicales, qui sont les plus iconiques, si je peux me permettre. Bref, entre Emma et Alyssa, Marvin et Wither, Zaza et Renato, les couples queer sont très présents à Broadway comme si cette catégorie de personnages avait enfin trouvé un espace où s'exprimer pour pouvoir sortir de l'ombre et au final, pour exister. Parce que oui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Broadway pourrait être un espace assez ouvert à la diversité pour laisser s'épanouir les histoires queer ? Qui sont des histoires qui peut-être n'auraient pas trouvé la même portée et la même place dans d'autres domaines artistiques. Donc il faut commencer cette petite chronique, enfin plutôt cette longue chronique, car c'est une longue chronique, par une petite chronologie, histoire de restituer tout ça. Donc je laisse mon Stéphane Bern intérieur s'exprimer, et surtout montrer que la représentation queer n'est pas à prendre pour acquis, même dans le monde pailleté et édulcoré auquel Broadway est souvent associé, parce que c'était pas un combat gagné d'avance. Loin de là. Donc malgré le fait que les relations LGBTQ+, aient été représentées au théâtre déjà pendant la Grèce antique, comme quoi ils avaient une longueur d'avance sur nous, les mœurs ont bien changé, et l'esprit et la tolérance humaine ont rétréci tout autant que la crédibilité de n'importe quel acteur ayant joué dans le live-action de Cats. James Corden, on te voit, mais là je m'égare, et il faut pas que je parte sur ce sujet. Bref. Au début du XXe siècle, les auteurs luttaient contre la censure, la prison, voire même la peine de mort. Et oui, face à leur volonté de mettre en avant les personnages queer dans leurs œuvres. L'amour queer était un amour interdit, un amour secret et dissimulé. Au début des années 1960, les personnages queer sont représentés selon des stéréotypes, parce que oui, ils sont là pour qu'on s'en moque et pour qu'on en rie. Et c'est seulement à la fin des années 60 qu'ils sont moins codifiés et que les couples queer commencent à être mis en avant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des couples, comme les autres, au final. Et même si c'est dans l'illégalité, parce que oui, on assiste à une ère de rébellion. Les gens commencent à rejeter les idées traditionnelles de papa-maman. Ils sont pour le droit d'aimer, pour la liberté, pour la paix. Ils sont un peu comme dans la comédie musicale Hair, quoi. Avec les mêmes coupes de cheveux et les mêmes pantalons pas de def. Style que, par exemple, j'adore. Mais là aussi, je m'égare. En 1968, la pièce The Boys in the Band est écrite par Mark Crowley. Et cette pièce met en avant que des personnages queer. Et elle a été écrite alors même que c'était passible de prison. C'est qu'il a réussi à prendre pas mal de risques, le petit Mark. L'auteur a même dû convaincre les acteurs, après moult négociations, de jouer malgré les risques. Et ça a valu le coup, puisque c'est l'œuvre qui a donné l'impulsion vers plus de représentations au théâtre, avec la création plus tard de... Picture Show, par exemple, qui est une immense masterclass et une immense symbole queer. Un immense symbole queer, plutôt. Pareil, en 1983, Harvey Fierstein écrit La Cage aux Folles, qui devient la première pièce à inclure un baiser queer à Broadway. Donc là, en termes de Broadway, de progrès, on est quand même sur un level assez haut. Et ce, malgré une homophobie causée, entre autres, par la crise du sida, sur laquelle je vais revenir après. C'est resté 4 ans à Broadway et...
Are what we are, and what we are is an illusion.
La pièce a remporté plein de Tony Awards très bien mérités, dont celui du meilleur musical. Il faut souligner que le sida a eu un rôle à jouer très important dans la question de la représentation des couples queer. Puisque la communauté de Broadway, comme le monde entier, mais focus sur Broadway, a été extrêmement marquée par cette maladie et elle en porte encore l'héritage. Il faut notamment souligner que Broadway a perdu énormément d'auteurs, d'acteurs ou encore de compositeurs à cause du sida. Comme Howard Ashman, qui a notamment été, qui est toujours notamment connu pour Little Shop of Horrors, et qui a succombé au virus en 1991 à seulement 40 ans. De nos jours, le thème est encore omniprésent à Broadway, avec des hommages, des ventes aux enchères, et surtout la création de Broadway Cares for AIDS, qui est une association pour récolter des fonds au sein de Broadway qui vise à lutter contre le sida, et qui continue à être très active aujourd'hui. Tous les ans, il y a de nouvelles ventes aux enchères, et c'est vraiment super. C'est donc un thème qui a profondément marqué l'univers des comédies musicales. Dans Rent, par exemple, qui est une immense œuvre de Jonathan Larson, l'amour entre Collins et Angel bouscule les codes et prospère malgré la maladie. Parce que Larson ne cache rien. Des groupes de paroles de malades au deuil en passant par les hospitalisations et l'attente infinie qui y est liée. Mais ce n'est pas un cas isolé. Et non. Puisque William Finn, auteur de Falsettos, a eu à cœur de représenter ce qu'il connaissait dans la vie. Et le sida a été pour lui un thème majeur à force de perdre tous ses amis face à ce qu'ils appellent « ennemis invisibles » dans, justement, Falsettos. Parce que oui, je n'allais pas parler d'amour queer à Broadway sans parler de Falsettos. Qui est ma pièce préférée de tous les temps. Puisqu'on y suit l'histoire de deux hommes qui s'aiment et d'une famille absolument dysfonctionnelle. Ils sont confrontés à la réalité de leur époque et se heurtent au virus et à la mort. Spoiler, pardon. Dans Falsettos, c'est l'amour qui trouve son chemin à partir de ses obstacles. C'est pas un amour cliché, un amour parfait, idéalisé. Non, parce que c'est un amour complexe qui est mis en avant, rempli de hauts et de bas, sans volonté de montrer une relation queer enjolivée. Les deux amants sont radicalement différents.
When he pushes, I pull.
Hang up your clothes, Marvin. Reading shows, Marvin.
C'est une tragédie moderne qui dépeint une époque meurtrie. Bref, Falsettos, c'est un chef-d'œuvre réaliste. Et j'y ai laissé autant de larmes que pendant l'intégralité des cours de danse classique auxquels j'ai pu participer. Et ça fait beaucoup. Bref. La question de l'amour queer est capitale à Broadway. Le théâtre musical apparaît comme un espace libre et propice à sa représentation. Donc ça se construit d'une certaine manière, en contrepoint par rapport au cinéma. Et oui, mes chers amis, j'ai fait mes devoirs. Comme le mois dernier, j'ai été chercher dans les études. Une étude de GLAAD a par exemple montré une baisse significative de la représentation queer au cinéma, parce que sur les 256 films provenant de grands distributeurs, on a compté 170 personnages queer en 2023, ce qui fait une baisse de 122 personnages par rapport à l'année précédente, ce qui est énorme. Alors que les pièces queer à Broadway sont toujours plus nombreuses et continuent toujours de plaire. Merci Broadway. On dit tous merci à Broadway en cœur.
Merci Broadway.
Par exemple, on peut nommer la pièce My Son's the Queer and What Can You Do. Le titre ne pourrait pas être plus explicite. Mais malgré tout ça, il y a toujours des progrès à faire. On remarque par exemple qu'il y a beaucoup moins de représentations de couples lesbiens dans les comédies musicales que de couples gays. La représentation n'est pas encore parfaite, mais bon, on est sur la bonne voie. Bref, Broadway permet l'inclusion. C'est un espace libre, un petit peu à part. L'amour queer est célébré et mis en avant, et c'est une fabrique de symboles, de modèles et de figures. Broadway, au fond, est-ce que ce ne serait pas un petit peu une safe place d'amour ? Je pense qu'il faudrait lui dire merci, non ?
Merci Broadway !
Ben merci, attends, tous ensemble, avec merci.
Ouais, on a compris.
Ok, 1, 2, 3.
Merci Yona.
Bravo Yona. Merci pour ta chronique chargée d'histoire et chargée de thèmes importants à évoquer, surtout...
comme Falsettos.
Non, mais surtout en ce moment, quand on voit notamment ce qui se passe aux États-Unis actuellement, qui est vraiment très important à notifier. Et vous alors ? Et quel est votre rapport avec ces histoires-là ?
Alors moi déjà, je tenais à dire qu'on a tous fermé nos gueules quand Ilona a parlé tellement on était captivés. Mmh. Donc je tenais à dire ça. Franchement, c'est difficile de nous faire fermer nos gueules. Et, et là, vraiment, personne n'a rien dit. Voilà. Donc bravo Ilona pour ça. Je me permets quand même. Gauthier, j'ai pas écouté, pardon.
Quel est votre rapport avec ces histoires-là ?
Bah, c'est vrai que je trouve ça chouette qu'on ait beaucoup d'histoires queer qui sont à Broadway et qui arrivent d'autant plus. Maintenant, je pense que ça manque encore. Et j'en aimerais encore plus, surtout quand on sait que les trois quarts, si ce n'est plus, des gens qui jouent sur scène sont au moins un petit peu homosexuels.
Oui. Oui.
Ils ont trois quarts sans...
Voilà, donc je trouve que ça serait bien, surtout dans les représentations lesbiennes, et j'aimerais bien aussi qu'on ait plus de couples qui sont juste homosexuels parce qu'ils sont homosexuels, et que ce soit pas genre une partie de l'histoire, le centre de l'histoire, c'est qu'ils sont homosexuels et que c'est terrible et qu'il leur arrive plein de malheurs, ce qui est important aussi de faire, parce qu'avec le climat actuel, c'est important aussi de dénoncer. Mais c'est vrai que ça serait cool d'avoir aussi beaucoup de personnages plus casual, qui sont juste homosexuels comme ça, mais juste c'est un fait, comme le fait que j'ai des super cheveux bouclés, par exemple.
C'est ça qui est cool, je trouve, avec Rent, c'est que ça explore beaucoup de diversité au sein du couple. Il y a par exemple Mimi et Roger, c'est juste, ils vivent. T'as Angel et Collins qui sont un couple gay. J'allais dire Mireille, pas du tout.
Mireille Mathieu est dans Rent.
Joanne et Maureen qui sont un couple lesbien. Enfin, c'est une énorme diversité Rent et je trouve que ça c'est intéressant justement parce que ça se focus pas sur un seul couple malgré toutes les obstacles, par exemple le sida au final.
Bel obstacle.
Il y a aussi le truc de quand on voit par exemple, pour revenir sur les films par exemple dans les Disney, tout ce truc là de le méchant qui était codé homosexuel et des clichés liés à l'homosexualité et qui a surtout beaucoup de mal à cette représentation là aussi. Par exemple quand on voit Jafar typiquement dans Aladdin, c'est exactement ça.
Ouais, ce côté hyper maniéré pour les hommes soignés, etc. Et à l'inverse pour les femmes, tu prends Ursula qui est un petit peu au contraire beaucoup plus brute, beaucoup plus regardez-moi maman Morton à mes yeux. C'est pareil, ça c'est un cliché ultra lesbien en soi.
Mais ce qui est, enfin, c'est pas directement lié au sujet, mais je rebondis dessus. C'est quand même fou parce que il y a ces personnages qui sont stéréotypés implicitement. Par contre, quand tu mets un personnage vraiment queer dans un dessin animé Disney, par exemple, ça fait tout un caca nerveux et c'est l'horreur. Donc c'est vraiment paradoxal quand même.
Et souvent même, je dis souvent, les personnages queer dans Disney, bref, c'est pas souvent.
Il y a quand même le premier personnage homosexuel dans un film Disney depuis 15 ans, qui existe à chaque film.
Bien sûr. Non, ce que j'allais dire, c'est souvent même, étrangement, la représentation voulue va être moins bien que la représentation involontaire, le queer coding involontaire, vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, carrément.
Non, c'est clair. Et puis aussi, on voit que beaucoup d'œuvres, par exemple, je prends dans l'audiovisuel surtout, qui se veulent queer par le créateur, quand elles sont rachetées ou produites, et elles sont raccourcies ou annulées. Moi, vraiment, je n'arrêterai jamais et je mourrai sur cette colline, sur The Owl House, qui s'est fait manger la moitié de son temps d'écran, parce que, en fait, c'est une histoire qui est devenue queer, et qui est extrêmement queer, et c'est un cartoon, si vous ne savez pas, qui est fantastique. Et en fait, c'est Disney qui l'ont acheté volontairement, hein, c'est eux qui ont donné l'argent pour faire, et ils ont dit, tu sais quoi, non, la dernière saison, elle va faire 3 épisodes au lieu de genre 20. Et ça, c'est constant, et je me dis qu'il y a forcément... là, on est au courant parce que c'est Disney et que la série était déjà en cours, mais pareil, dans les arrières des productions des comédies musicales, il y en a forcément à qui on a dit, ça, enlève-les, moi, là, c'est les homos, là. Enlève-les, c'est sûr. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment matière à parler de beaucoup de choses intéressantes et tristes et joyeuses. Et...
Mais ça, c'est le capitalisme.
Bien sûr.
Parce que tu vas mieux vendre une histoire qui met tout le monde d'accord, alors que dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de sortir un petit peu du lot, là, forcément, ça marche moins bien.
Ou tu crois que tu vas mieux vendre, parce que comme tu l'as dit, il y a plein d'œuvres qui ont été dans ces sujets-là et qui ont été des énormes succès.
Oui.
Donc, c'est pas forcément vrai non plus. Mais voilà, on est dans une ère où...
N'oublions pas les plus grands succès des sites de fanfiction tels que AO3 et autres Wattpad. Ne l'oublions pas. Je ne dirai pas de nom. Je pose ça bien juste sûr. Sur la
Personnellement,
table.
Personnellement, je préfère AO3 à Wattpad, si je me permets. Voilà.
C'est bien raison.
Mais on est dans un monde où l'argent prime. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc forcément, quand il y a une... annonce de perdre de la crédibilité auprès du public, on ne prend aucun courage.
Ce qui est terrible.
Voilà. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire ?
Merci.
Merci Ilona.
Merci à vous.
Ilona, on va écouter une chanson de Falsettos. Quelle est-elle ?
Unlikely Lovers, qui est aussi, si je peux me permettre encore une fois, beaucoup de digressions aujourd'hui, ma chanson préférée de toutes les comédies musicales qu'il existe dans l'univers entier. Et donc respectez-la et écoutez-la avec amour.
Écoutez bien ça parce que ça va peut-être changer votre vie.
Ça a changé la mienne.
Who'd believe that we two would end up as lovers. Do you want me to reply?
Him and me, you and I, passionately lovers.
Please don't get morbid.
Right.
It's just...
Don't fight.
That I haven't died yet.
Just stop it.
I'm sick, but kicking.
Jeez.
All right.
Louise.
Good night.
I'm staying here in this spot, whether you want me to or not. I'm staying. Here I am by your side, one old horny lover.
Please go home and don't be scared.
What's the fuss? I'm not scared. What good is a lover who's scared? Hit me if you need to. Slap my face or hold me till winter. Oh, baby, please do. I love you too, my lover.
Marvin, just go home and turn on TV. Drink a little something till you're dead. Think of me around, sleeping soundly in our bed. Marvin, did you hear what I said?
Shut your mouth, go to sleep. Time I met a sailor. Are you sleeping yet? Or what is what, wizard? But I can't help but feeling I failed. Let's be scared together. Let's pretend that nothing is awful.
There's nothing to fear.
There's nothing to
fear. Just stay right here. I love you.
Shh. Maybe he's tired.
Shh.
Maybe he's waiting for us.
Shh.
Maybe he's waiting for a visit. Is it a bad time? We'll come back. If it's a bad time, we'll come back. We'll come in.
Look at us, four old friends, four unlikely lovers.
We don't know what time we'll...
I have a clue.
I have two.
Let's look like we haven't.
And each say nothing.
Sky.
It's blue.
I love the sky.
I love the trees.
I love bad weather.
I love the earth beneath my feet.
I love friends that hover.
Gee, we love to eat. And we need something sweet to love. What a group we four are. Let's pretend that nothing is awful. There's nothing to fear.
There's nothing.
Just
to
stay
fear.
Right here. I love you.
Would end up as lovers.
On vient vient d'écouter Unlikely Lovers de Falsettos sur Slime dans Radio Campus Paris, l'inverse quand on change les prépositions. Et c'est la fin de cette émission de Slime sur Radio Campus Paris. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu un coup de foudre sur les choses qu'on a dites. Merci encore d'avoir écouté cette émission. Mais avant, Ange, tu veux faire la promotion d'une certaine comédie musicale.
Une certaine comédie musicale qui me tient particulièrement à cœur. Excusez-moi, je n'arrive pas à contenir mon enthousiasme. De la Ship qui arrive à la scène musicale le 18 février à 20h. On y va ou quoi?
Bah, oui. Allez.
On fait une petite rencontre abonnée. Venez rencontrer l'équipe de Slime à la scène musicale, on vous y attend.
Voilà. Vous préférez
ça
rencontrer,
va être un banger.
Vous préférez rencontrer l'équipe de Slime ou Sting?
Moi, j'ai choisi.
L'équipe
pourquoi
de Slime,
choisir
sans hésiter.
Ma question, c'est pourquoi choisir quand on peut faire les deux en aille en
plus. On ne peut pas rencontrer l'équipe de Slime.
Bien sûr, c'est vrai qu'on peut faire les deux. Mais on sera sur scène d'ailleurs, il me semble.
Après, on sera sur scène précisément.
Pas
après,
du tout.
On a un hors les murs.
On jouera le bateau.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de remplaçants, par exemple, je suis là.
Eh bien, The Last Ship à la scène musicale à partir du 18 février. On ira voir ça lourd. Merci encore beaucoup, vous, auditeuristes, d'avoir écouté cette émission. Merci, Ange.
Merci, Gauthier.
Merci, Élise.
Merci, Gogo.
Merci, Ilona.
Merci, mon petit papillon du sud.
Merci à Delila à la technique.
Oui, ouais,
bravo. Chantez, dansez. Peut-être qu'un jour, vous trouverez quelqu'un qui aime faire ça autant que vous. Qui sait ? Salut !